Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un quatrième numéro et surtout quatrième rencontre, je dirais, avec Béatrice et François Morinière. Vous avez perdu Sophie en 2013. C'était la période des JMJ avec ce nouveau pape qui venait d'être nommé le pape François. On poursuit un peu cet itinéraire, cette aventure douloureuse et à la fois merveilleuse, pleine de providence, avec ces Simon de Cyrène que vous avez nommé d'une Christiane Taubira, d'un cardinal Barbarin, au pape François, à Monseigneur Lafont, l'évêque de Guyenne, et ce responsable du service catholique des funérailles de Paris quand ce corps de Sophie arrive à Paris. Béatrice, François, et merci.
Bonjour. C'est vrai que, comme tout deuil, il faut gérer la suite, donc il fallait s'occuper des funérailles de Sophie. Et donc, on nous a conseillé d'aller voir cet homme, Christian de Cacré, donc, qui a fondé le service catholique des funérailles. C'était une intuition du cardinal Lustiger, parmi les nombreuses qu'il a eues, de permettre à ceux qui souhaitaient d'avoir des funérailles dans un esprit chrétien, parce qu'il avait vu la souffrance, la solitude des gens, et ça lui faisait mal au cœur. Et donc il a demandé à cet homme de créer ce service, qui maintenant existe dans plusieurs villes de France. Et donc on a fait sa connaissance, et donc, comme je le dis en clin d'œil, mon croque-mort est devenu mon ami, ce qui n'est pas banal. Et en fait, dans les circonstances qui ont été celles de la mort de Sophie, donc on a parlé hier de l'irruption du cardinal Barbarin, et bien donc sur la route, on allait à ce funérarium pour retrouver Sophie. Et évidemment, ça a été un moment très compliqué, notamment pour moi. Et à ce moment-là, je dirais que Christian m'a littéralement porté physiquement pour pouvoir aller jusqu'au cercueil. Et dans un livre qu'il a écrit peu plus tard, dans lequel il raconte des expériences de deuil, il parle de celle-là, parce qu'elle l'a profondément marqué. Et il dit qu'à ce moment-là, il me portait et il sentait que nous étions tous les trois avec le Christ en train de porter la croix, comme en allant vers Golgotha, et qu'on sentait ce poids terrible de la croix sur les épaules. Et je pense que c'est des paroles très, très vraies, parce qu'on l'a ressenti tous ensemble, tous les trois en tout cas. Et donc après ce moment et ces jours compliqués, eh bien, la Providence a voulu qu'il aille dans le même lieu de vacances que nous, là où il n'était pas allé depuis 30 ans. Et donc eh bien, on a pu se retrouver dans des moments plus calmes et plus sereins, et échanger, se connaître. Et depuis, il est notre ami, ses enfants sont amis de nos enfants. Et voilà, quelqu'un qui était là où il fallait au moment, et qui nous a fait beaucoup de bien dans la vie si difficile à ce moment-là.
Oui, il y a aussi un certain nombre de gens inconnus de tous qui nous ont aidés finalement par une chaîne de prières invisible. Par exemple à Lourdes, quand je suis allée en tant que piscinière 2 mois après la mort de Sophie, il se trouve qu'on servait également le soir de l'arrivée du rosaire, on servait à la gare, et j'ai fait la connaissance d'une dame qui vivait entièrement seule, qui n'avait pas de famille, pas d'amis, et qui passait en fait sa journée devant Catéo. Et quand on a commencé à discuter, elle me dit « Mais vous êtes la maman de Sophie ?» Je dis « Oui, mais comment est-ce que vous connaissez, entre guillemets, Sophie ?» Et donc elle était aussi touchée et heureuse de faire ma connaissance que moi j'étais, de me dire « Il y a une vieille dame au fin fond de la Bretagne qui a prié pour moi, qui a prié pour elle. » Et ça, j'ai plusieurs expériences comme ça, entre autres de femmes qui nous écrivent encore depuis 4 ans et encore aujourd'hui, qui fêtent, il y en a une par exemple qui s'appelle Juliette, qui fête toujours la fête de Juliette et la fête des enfants, et Noël, et l'anniversaire de la mort de Sophie, enfin qui est là tout le temps, qui nous écrit, qui nous envoie un petit chèque pour faire dire une messe.
Vous semblez encore surpris.
Ben oui. Et tout. Non mais c'est beau, c'est là, vraiment.
C'est la providence et les cadeaux du ciel.
Oui, exactement.
Ça vaut autant que de la part des autres, c'est-à-dire qu'une inconnue comme ça qui pense à vous, c'est formidable.
Et qui partage, hein. Il y a cette communion qui est parfois, ouais, hein, qui nous dépasse, invisible. Il y a aussi, alors parmi ces Simon de Cyrène, ces belles rencontres, un père Daniel Ange, qui est bien connu, qui a été le fondateur il y a plus de 30 ans d'une école d'évangélisation, qui est l'école Jeunesse Lumière, qui a écrit de nombreux ouvrages. Hein. Oui. Et c'est ce père Daniel Ange qui rappelle aussi combien il est important que les jeunes évangélisent les jeunes. Béatrice, et en fait, je crois qu'il a écrit, non, autour de Sophie,
oui,
un livre. Alors,
en
la
fait,
parole est à vous.
L'histoire avec le père Daniel Ange a commencé parce qu'il avait une nièce dans le quart de Sophie. Et donc très vite, il a voulu nous rencontrer parce que Sophie, évidemment, comme elle était quand même très très rigolote, s'était un peu fait remarquer pendant la première semaine des JMJ et donc avait fédéré autour d'elle les 53 jeunes qui étaient avec elle. Et donc sa nièce et les jeunes du groupe ont pu en parler au père Daniel Ange, qui ensuite a voulu nous rencontrer. Et en fait, entre autres, il a écrit un livre qui s'appelle Prophète de la joie. Et il nous a dit, c'est incroyable comme ces jeunes, en fait, dans ce livre et dans le suivant qui s'appelle Prophète de la beauté, dans lequel il y a un chapitre sur Sophie, il raconte, il estime qu'il est plus facile d'évangéliser les jeunes par les jeunes. Et du coup, il s'appuie sur des images, des profils de jeunes décédés trop tôt et qui avaient tous un peu déjà un coup d'avance sur le ciel. Et d'ailleurs, ils sont au ciel maintenant. Et il a repéré que Sophie, avec sa joie très extériorisée, faisait partie de ces jeunes.
Ah, c'est touchant quand même de voir Sophie qui apparaît dans ce livre au milieu de personnages plus connus peut-être. Et avec cet homme qui, voilà, avec ses cheveux blancs, qui vient chez vous et qui vous serre dans ses bras et qui vous dit que Sophie est formidable et qu'elle est au ciel. Enfin, voilà, il a une joie communicative qui est exceptionnelle. Et donc, quand vous le quittez, vous vous sentez bien. Quoi. C'est quelqu'un qui...
C'est des consolations.
Ah oui, c'est sûr. Là, c'est du bonheur, oui. C'est du bonheur d'être avec lui, c'est sûr.
On est allé le voir
dans son école.
Oui, on est allé témoigner là-bas devant les jeunes. Et...
Avec nos enfants. Parce que, soyons logiques, on avait des jeunes devant nous, donc on a amené nos jeunes.
Ouais. Donc on n'a pas parlé des frères et sœurs de Sophie. Peut-être demain, c'est la fin de ce quatrième entretien. C'est court, mais on découvre cette aventure un peu exceptionnelle de la perte d'un enfant. On n'y revient pas. Et puis de toutes ces surprises, de toutes ces rencontres et ces ciments de sirène qui vont être au fond pour vous, Béatrice et François, des beaux clins d'œil qui vous viennent directement du ciel. Sophie est là, on la garde avec vous et on vous donne rendez-vous demain. À demain.